Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold on, everybody. Here it comes.
Alors, petite introduction dramatique, Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 189. Ici Richard Delhomme. Alors, ce que j'aime là, c'est que comme je fais un débrief avec vous, je vais pouvoir reprendre l'intro avec les mecs. Ça, j'adore. Vous avez été nombreux à suivre la première édition de Bright Midnight en Norvège début juillet. Eh bien, aujourd'hui, après avoir écouté un débrief avec les principaux protagonistes, à savoir Sofiane, Clément et Christophe, voici maintenant l'heure de débriefer avec Julie et Laurie. Laurie courait son premier ultra et est certainement la seule personne à avoir repéré les cabanes de trappeurs disséminées sur le parcours. Et également la seule personne qui a préparé l'épisode sans que je lui demande et a même répondu d'avance à des questions imaginaires. Donc bravo, bravo Laurie, bravo pour ce magnifique sens de l'anticipation inattendue. Les membres avisés de Bistro Gravier, dont le lien est dans la description de cet épisode, la connaissent bien maintenant, puisque Laurie intervient souvent et partage des photos magnifiques, entre autres commentaires pertinents. Quant à Julie, parlons-en. Elle n'était pas montée sur un vélo depuis des semaines suite à une vilaine blessure et encore traumatisée par notre rencontre fulgurante aux Canaries autour d'une merguez. Et elle a roulé fort, très très fort dans les deux cas. Alors, pour commencer, bon, vous me connaissez bien toutes les deux, on se connaît maintenant depuis quand même quelques temps, et vous savez bien que je ne suis pas le genre à me moquer. Néanmoins, une de mes sources, qui tient à garder l'anonymat, m'a écrit il y a 2 jours en me disant « Demande à Julie de parler de l'intérêt des freins en gravel ».
Ok, bah l'anonymat, merci beaucoup.
T'as deviné qui c'est ? C'est bon ?
Oui, c'est bon, je sais qui c'est.
Ouais, ça... merci Clément Mahé, hein, quand même.
Comme il t'a balancé.
Ah ouais ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est légendaire.
Donc, comme évoqué pendant l'introduction, je t'ai blessé avant la course. Et je pensais même pas prendre le départ. Et j'ai décidé, je crois, le mercredi, alors que la course partait le samedi, ou le dimanche, j'étais perdu, que j'allais tenter. Et du coup, mon vélo, j'ai rien révisé. J'ai pas fait de prépa, de check, de rien du tout. J'avais vite écrit à Laurie, tu penses que c'est une bonne idée? Elle m'a dit, t'as roulé dessus hier, il fonctionne, vas-y. Donc, je suis partie et puis mi-course, j'ai grillé mes freins, mes plaquettes, j'avais plus de freins. Et j'avais la flemme de m'arrêter pour résoudre le problème. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai fait toutes les descentes sans freins et ça a passé sans frein avant. J'avais que le frein arrière et j'ai pas eu trop de problèmes. Alors je me suis dit, pas besoin de freins pour la fin de la course, ça passe, il reste que 250 km. Voilà.
Les 250 que tu n'as pas fait, je crois, d'ailleurs.
Les 250 non, que les je mêmes... n'ai pas fait.
Moi non plus, d'ailleurs. Hein, tu vois, je me la joue un petit peu comme ça, mais catégorie, moi non plus, je les ai pas fait. Donc, et pourquoi t'as arrêté? J'ai pas bien compris. Parce que...
j'ai eu mal au genou. C'était le deal que je m'étais fait avec moi-même avant de prendre le départ. C'est dès que j'avais des douleurs au genou, je m'arrêtais. Et puis, en fait, j'ai réussi à quand même faire les 800, 850 km avant d'avoir des douleurs un peu trop aiguës. Et c'est là que je me suis arrêtée. Et donc voilà, okay. C'est tout.
Une sage décision, donc.
Oui, regrette ouais. Pas du tout.
Laurie, bon, nous on a partagé une soupe.
Oui, gastro, dans un restaurant où la serveuse m'a proposé un accord vin avec les je ne sais combien de services qui étaient proposés. Donc ça, c'était très chouette, c'est très dur l'ultra, effectivement.
Ouais, mais ça c'est uniquement parce que t'as croisé ma route. Si t'avais été toute seule, tu serais allée dans un relais voyageur un peu cradingue.
Exactement.
C'est uniquement parce que moi je suis une poule de luxe. Et que quand je m'arrête, je vais dans un 3 étoiles.
Donc, Exactement. Bah écoute, quand on te tend une perche, tu la prends.
Oui, parce qu'il faut quand même préciser que dans l'après-midi, tu m'as écrit pour me dire « Je suis en rade, est-ce que je peux venir partager ? Est-ce que tu peux partager ta chambre ?» Bah évidemment. Donc quand même, comme il y avait deux lits, ça tombait très très bien. Et voilà.
Exactement.
Il faut, c'est quand même ça qu'il faut préciser jusqu'au bout.
J'avais quand même un plan B. J'avais quand même un plan B qui était d'aller dans un camping,
j'espère.
Mais c'était plus ou moins... Voilà. Quand on te propose la chambre 3 étoiles, tu la prends, quoi.
Carrément. Rappelez-moi, toutes les deux, qu'est-ce qui vous a fait venir à cette épreuve ? Je vais vous poser à peu près les mêmes questions qu'au mec, parce que Julie, toi et moi, on en a parlé un tout petit peu après les Canaries, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris la décision de venir moi aussi. J'en avais déjà entendu parler, et toi, tu m'en as parlé. Avant tout cela, qu'est-ce qui, toutes les deux, et même tout Lausanne Gravel, parce que rappelons-le, même si vous ne vous êtes pas présentées, vous êtes toutes les deux canadiennes, vous êtes à Lausanne, et vous faites partie de la mythique équipe Lausanne Gravel, dirigée néanmoins par la mythique Linda Farkzadi, membre des services secrets.
Exact. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a juste proposé dans le groupe Lausanne Gravel, ça vous dit, on s'inscrit à ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés de s'inscrire, et il y a genre 15 personnes qui ont répondu comme si c'était une sortie du dimanche de 40 bornes. Oui, allez go, on s'inscrit, et on s'est tous inscrits en même temps, et donc ça a fait déjà un peu un effet de groupe, et on s'est tous organisés en groupe pour y aller, donc ça fait une grande motivation pour tout le monde. Mais personnellement, c'était... Je trouvais que la Norvège était très intéressant à découvrir comme pays. Les paysages sont magnifiques. Puis je pense aussi, comme les mecs l'ont dit, c'est aussi l'attrait d'avoir le soleil tout le temps et de pouvoir rouler la nuit. Finalement, moi, j'ai pas roulé la nuit, mais bon, bref, quand même. Et voilà. Et pour moi, c'est aussi juste la découverte de l'ultra. Je trouvais que c'était un ultra un peu abordable pour les débutants.
Un petit peu atypique aussi. Julie, ouais, pareil.
De mon côté, c'était, je connais bien Justinas aussi, donc c'était un bon pote. Donc quand j'ai su qu'il organisait un ultra, je me suis dit ça, faut pas que je le loupe. Faut voir comment ça se passe. Et puis pareil, il y a eu un engouement assez important du côté de Lausanne, et c'était vraiment, allez, on va, on se marre, on est entre potes, et puis. Puis vas-y, et surtout aussi, l'idée c'était aux Canaries, j'avais trouvé dommage de pas profiter du paysage autant que j'aurais voulu par le fait de rouler de nuit, donc c'était très intéressant de pouvoir rouler 24 heures sur 24 et voir le paysage en entier.
Ah c'est sûr que là on n'en a pas loupé une miette parce que toi et moi je pense qu'on n'a rien vu de Lanzarote. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc c'était un petit peu le côté atypique aussi. Laurie, tu disais à l'instant le côté accessible. Qu'est-ce qui
accessible, pas abordable, mais oui, accessible. Déjà, moi je voulais pas faire d'ultra en route, donc je cherchais un ultra qui était gravel, genre véritablement gravel et pas VTT, et donc pas trop difficile dans le off-road. Et d'avoir quand on t'annonce que tu peux faire l'ultra en pneu de 40, tu sais que ça sera pas la misère et que tu auras pas 1000 hike a bike et que tu vas pouvoir rouler la plupart du temps. Donc déjà ça, moi ça m'attirait, et je me suis dit que c'est pas que c'est un ultra facile, mais en tout cas plus accessible.
Julie, toi t'as trouvé ça plus abordable, plus accessible que tes expériences précédentes?
Mon tout premier ultra c'était sur route, donc ça c'était assez facile dans le sens où t'as pas le stress de combien de hike bike, combien de passages techniques, de single tracks, tout ça. Ensuite, je trouvais que niveau, je trouvais que les Canaries, le rythme était un peu tamponné avec les ferries. Donc, ça sert à rien des fois de sprinter parce qu'ensuite tu attendais le bateau. Du coup, je trouvais que c'était moins abordable finalement que par exemple Grand Guanche dans un sens. Juste parce que t'avais des longs, longs bouts sans ravito, sans eau, sans magasin, sans rien du tout. Pour quelqu'un qui connaît moins l'ultra et qui est quelqu'un beaucoup moins organisé que Laurie, je pense qu'il y avait très facilement des grosses erreurs en termes de ravito à faire sur ce parcours.
Mmh. Oh oui, on peut en parler des erreurs sur la nourriture.
Non, c'est vrai que c'était clairement un ultra où il fallait que tu regardes la trace. En tout cas, pour moi, c'était évident. Je me suis dit, ou déjà, juste pour savoir quoi emmener, quand t'es débutant, puis tu sais pas trop, est-ce que tu te dis, OK, est-ce que je prends ma tente? Est-ce que je prends le sac de couchage? Le matelas? Est-ce que je prends rien? Et juste pour prendre cette décision, pour moi, c'était essentiel de bien regarder la trace, juste pour voir, OK, il y a tant de kilomètres entre les villages, les villes, les campings, tout ça. Est-ce que je peux rallier ces points? Si tu peux rallier ces points, ben, tu prends pas ta tente, quoi. Tu t'enlèves des trucs.
Quand je pense que t'es la seule à avoir pris l'application de météo norvégienne.
Non, c'est pas vrai ça. Il y en a plein qui l'avaient, juste pas toi, Richard. Mais. Mais bon, on est loin de l'application météo suisse. Il y avait pas, c'était pas hyper précis au niveau des précipitations. C'était un peu n'importe quoi. Je pense qu'il y a une journée, j'ai fait entièrement dans le sec, alors que Michel, qui était devant moi. Il a pris la pluie, mais toute la journée, alors qu'il était peut-être, je sais pas, 60 km, 70 km devant moi.
Et donc là, c'est Michel qui vient de partir à vélo. Attends.
Non, il vient de rentrer dans l'appart, ouais.
Voilà, excuse-moi, c'est mon petit téléphone. Donc là, c'est Michel qui vient de partir faire. C'est Michel qui vient de partir faire du vélo, c'est ça?
Ou non, non, il rentre du boulot, ouais.
Ah bah dis donc, 19h20, lui aussi, il a pris son après-midi. Bravo.
Ah. Je ne sais pas si t'as entendu ça.
Non, j'ai entendu le ton goguenard de Michel. Bonjour mon grand, ça va?
Il dit bonjour.
Si on venait un petit peu de la gestion et de la préparation du parcours. Parce que, il y a différentes écoles. Laurie a appris à Sofiane qu'il y avait un ferry environ 15 minutes avant le départ.
Exact, c'est juste.
Voilà. On a appris, et vous avez écouté l'épisode toutes les deux, que ça a aussi un petit peu lissé la course et permis un rassemblement général au niveau du ferry qui a permis de ressortir un petit peu de relancer un petit peu le suspense de l'épreuve. Justement, vous, toutes les deux, comment vous avez préparé le parcours? Parce que Laurie, indépendamment de la blagounette, tu as pris des notes, tu es très méticuleuse, tu es très organisée. Donc, on a tous et toutes beaucoup à apprendre de toi. Comment tu as fait, Julie, ensuite? On va commencer par Julie. Julie, comment tu as fait? Bon, voilà. Julie se masque les yeux, j'en déduis qu'elle est beaucoup moins pointilleuse et méticuleuse.
Bon, à sa défense, elle pensait pas prendre le départ, donc tu prépares pas une course que tu fais pas, normalement.
Alors, j'ai regardé la trace vite fait pour la première fois dans le train en allant à l'aéroport. C'est Laurie qui me l'a montré sur son téléphone. Et puis ensuite, j'ai fait un screenshot du roadbook qui nous avait été proposé par Justina et Bruno, et je le découvrais à fur et à mesure que je faisais le parcours. Full stop. C'était ma prépa.
Bah, moi je dis respect. 3 mois sans vélo, pas de frein, aucune préparation. Et t'as fait la course, t'as fait une course magnifique jusqu'à ce que ton corps te dise d'arrêter tes conneries. Bah, moi, tout ce que j'ai envie, c'est que tu te soignes le plus vite et que tu te remettes en selle pour voir de quoi t'es capable.
Merci.
Entièrement d'accord.
Et surtout, ne change rien à ta méthode. Parce que.
Non, il n'y a pas de.
Mais tu es ivre morte, en fait. Tu es hilar.
Non, mais. C'est comme ça que je prépare tout. Je prépare rien.
Mais, Mais si ça marche pour toi, je ne vois aucune raison de changer parce que sans problème de genou, tu serais allé au bout. C'est sûr et certain. Donc, il n'y a aucune raison que tu changes.
Mais c'est qu'elle a un mental d'enfer, Julie. Le mental l'amène partout.
Ça veut dire quoi, un mental d'enfer ?
Que malgré les douleurs, malgré les obstacles, elle continue quand même.
Ouais,
et peut-être un peu trop, justement, à cause de la blessure au genou.
J'ai dû apprendre à un peu utiliser son mental pour un bien, mais aussi connaître des fois que ce mental, ça peut être un peu plus négatif. Et puis plus écouter mon corps. Donc c'est ce que j'ai fait là, en Norvège.
T'imagines si en plus elle se préparait?
Imagine
elle finit sur le podium, c'est clair.
Mais imagine si elle faisait du vélo, quoi. Enfin, si elle en faisait avant la course. Imagine.
Voilà.
Et voilà. Est-ce que tu peux quand même détailler un petit peu Non, on y reviendra après. On va finir sur la préparation avec Laurie. Toi, Laurie, comment tu as préparé ton bazar?
Ça a été beaucoup d'analyse de traces à la base sur Komoot parce que c'est le premier truc qu'on a eu. Mais assez rapidement, j'ai trouvé des points de repère. Donc tout ce qui était soit ville, aussi j'ai repéré très rapidement, comme tu l'as dit, toutes les cabanes de l'association de trekking de la Norvège, parce que je trouvais que c'était un hyper bon choix de un bon point de chute, parce que c'est des abris qui sont en dur. Normalement, ils sont, si tu faisais un peu de recherche, tu te rends compte qu'ils sont tous équipés, qu'il y a de la bouffe dedans. Par contre, le seul truc, c'est qu'ils étaient verrouillés avec une clé qu'il fallait commander, donc ça, c'était un peu plus compliqué. Mais au final, j'ai rassemblé donc plein de points de repère, des points de chute, des points de ravitaillement, les points importants, genre un ferry ou certains abris, et j'ai tout mis ça sur Maps.me. Je crois que c'est dans un dernier épisode, c'est Victor Bouscavet qui a parlé de Maps.me aussi, et je trouve que c'est une super appli, puis tu peux toi-même, tu fais des catégories, tu mets les points, et puis ils apparaissent sur ta trace GPX, et donc tu sais à peu près qu'est-ce qui se trouve autour de toi, et ça je le consultais quasiment tout le temps pendant la course. Donc ça a surtout passé par une bonne prépa de traces et de savoir qu'est-ce qu'il y avait et combien de kilomètres de vide il avait surtout. Et ça, c'était surtout au début, je crois qu'il y avait presque 200 kilomètres de rien, mais bon, au début, donc tu les fais entièrement. Et il y avait aussi quand même un bon stretch à la fin de 200-250 kilomètres avec un supermarché qui était hors parcours. Mais sur ces 250 kilomètres, il y avait aussi une de ces fameuses cabanes. Et c'est là que moi, je me suis arrêtée en milieu de journée pour me faire des pâtes, par exemple. Alors que je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Et je n'ai pas dû faire ce détour pour aller au supermarché, qui est quand même une perte de temps, quoi, vu que ce n'est pas sur le parcours. Donc, un peu des petites astuces comme ça. C'est comme ça que je gratte un peu de temps, quoi, parce que ce n'est pas à la pédale que ça se fait pour moi, malheureusement. j'avais peur, j'avais pas mal d'anticipation pour le river crossing que Justinas il a annoncé au début. Il a dit que ça lui allait à peu près au genou, mais le genou de Justinas il est à 4 mètres du sol, tu vois. Et je me suis dit, ah, mais ça y est, moi je me noie dans cette rivière. Et finalement, ça allait. Hein. Il y en avait juste 50 de plus, et pas juste
que les deux annoncés.
J'ai bien rigolé aux chutes parce que il y avait plein de monde qui s'est arrêté enlever les chaussures et les sockets au premier à la première traversée de rivière.
Bah nous.
Et après sur le hike bike, je me suis dit tiens, les sockets elles doivent être dans un état maintenant. Il y avait les grosses flaques de boue.
On a regretté un peu d'avoir fait gaffe à nos chaussettes au début, mais
ouais,
bon.
On était trop princesses, fallait foncer depuis le début.
Ouais.
Mais quand même, d'entendre que les premiers, ils ont roulé au sec tout le long, c'est décourageant, non? Je sais pas. Moi, on s'est tellement pris la flotte. Si t'as fait 3, 4, 5 jours de vélo, tu t'es tellement pris la flotte. Et ça change,
pas,
quoi.
Hein. C'est horrible. C'est le Daniel Slaba, là, le magnifique point de vue. Rien vu, mais rien vu du tout. Que de
la
flotte.
C'est dommage. Mais tu vois, moi, c'est Trollstingen et l'autre montée d'après que j'ai fait 100% dans le brouillard. Donc, je me suis dit, chouette, je roule pas la nuit de toute façon, donc je vais tout voir. Et ben non. Le problème, c'était le brouillard.
Ouais. Ouais, il y a des endroits où on n'a rien vu du tout. La grande montée après, comment? C'était comment? Geranger? Vous l'avez trouvé comment, cette longue, longue, longue montée pour aller jusqu'au lac d'altitude?
Moi, j'ai adoré ça.
Elle était cool, celle-là.
Elle était hyper constante. Il y avait juste la fin qui était un peu plus raide, mais c'était pas du tout. Bref, c'est pour quelqu'un qui roule souvent dans les Alpes, t'es à la maison, quoi. Donc, et en plus, moi, j'étais très bien accompagnée auditivement parce que j'écoutais ton podcast, Richard. Donc, et je t'ai écrit juste en haut et je t'ai dit, ah, la montée, c'était exactement le temps de ton podcast.
Je sais, mais c'était fait court. Hein. Tu crois quoi?
J'étais aussi très bien accompagnée parce que j'étais avec le copain à Laurie, Michel.
Ah, excellent.
On s'est retrouvés par hasard. Alors, rouler avec Michel, c'est génial parce que, en fait, tu te marres tout le long. Donc, on a fait toute la montée sous la flotte. Il a fait méga froid. On n'a rien vu, mais on a rigolé. Et puis, bah, du coup, le temps, il a passé. C'était génial.
C'est important de rigoler quand même. Ça fait vraiment passer le temps.
À 100%.
Totalement. Tout à l'heure, Laurie, pardon, tu as dit la course est sympa parce que c'est accessible, c'est abordable. Julie aussi l'a dit, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec les nombreux poussages, portages, sections techniques, hike bike direct. Est-ce que c'est intimidant pour vous qui roulez beaucoup dans les Alpes alors que vous avez pas mal de petite fourberie quand même technique, est-ce que c'est encore quelque chose d'intimidant, les passages techniques? Je me souviens avoir roulé, avoir repris dans le début Linda, et quand on est passé dans le passage vraiment dans les secteurs un peu techniques, Linda est passée assez lentement, et quand on s'est retrouvé un petit peu plus loin, elle m'a dit ouais, moi les sections techniques, laisse tomber, je déteste ça. Malgré le fait que vous rouliez dans les Alpes autour de Lausanne et que c'est quand même assez pentu et assez technique parfois, est-ce que c'est encore des trucs que vous appréhendez avec un petit peu d'anxiété?
Moi, pas forcément. Bah justement, parce qu'on a quand même l'habitude de faire des trucs techniques, mais c'est plus la combinaison de un parcours très technique et le temps qui est alloué. Donc, ou la distance. Tu vas faire des trucs techniques sur 1000 km, c'est pas la même chose que d'avoir seulement quelques sections sur le parcours.
Ouais.
Et tu vois, je pense que quand je faisais référence à des ultras qui sont plus techniques, avec plus de hike a bike, peu importe, je pense à l'Atlas ou la Silk Road, tu te lances pas là-dessus pour ton premier ultra, par exemple.
Je dois dire, donc nous, ça fait. On a commencé le gravel quasi, Laurie, quelques mois avant. Moi, mais ça fait même pas 2 ans.
Ouais, c'est la deuxième saison.
C'est la deuxième saison, et du coup, il y a déjà une nette progression, je trouve, en termes de confort, technique à la descente. Et puis, Laurie, maintenant, c'est une speed demon avec les singles. Je sais pas d'où ça sort. Elle voit un single, elle part. Ciao, moi, je la rattrape plus du tout. Mais...
on a pas du tout de background de VTT. Nous, à la base, on est des cyclistes de route. Et puis, on a fait le saut vers le gravel il y a 2 ans. Et justement, si tu roules dans les Alpes, t'as pas le choix de te frotter aux trucs techniques. Et avec Lausanne Gravel, on fait quand même des trucs bien débiles. Genre, on a fait le tour des combins sur 2 jours en gravel, alors que c'est une trace normalement qui est très VTT. Puis je pense qu'on a porté les vélos sur 400 mètres de dénivelé sur la fenêtre de Durand. Et puis après, tu vas avancer. Donc, tu essaies quand même de rouler les 3 mètres que tu peux rouler. Et puis, la prochaine fois, tu vas rouler 5 mètres. Et puis après, ça va être 10 mètres. Et puis après, tu vas finir le single, quoi. Donc, c'est quelque chose qui devient de moins en moins intimidant. Mais je voulais pas du tout me lancer sur un ultra technique dès le début. Il y avait trop d'autres variables à gérer avec ça.
Ça veut dire que ça vous trotte un petit peu dans la tête quand même, ces ultras un petit peu techniques? Le Maroc, le Kirghizistan...
Mais c'est clair, c'est des courses qui sont magnifiques. Mais après, ouais. C'est vraiment des courses... En tout cas, pour moi, en Julie, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais moi, je pense qu'il faudrait que je prenne pas mal d'expérience là-dessus d'abord.
Pourquoi?
Parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir et de finir la course. Et pas juste d'essayer un truc. T'as mis du temps, t'as pris tes vacances, t'as pris les billets d'avion, t'as investi de l'argent pour abandonner après 2 jours parce que t'es pas prêt.
Bah, y en a qui l'ont fait cette année, hein, et apparemment, elles le vivent bien. Hein. Oui, ils le vivent bien. Hein.
Oui, mais c'est pas
ça
le but.
Plein.
Donc tu prends les mesures pour pas que ça arrive, normalement. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je sais très bien que moi, je dois y aller un peu par étapes. Au printemps, j'avais déjà fait... Donc, c'est pas mon premier ultra. J'ai fait au printemps Delens and Dolci, qui est au Tessin, en Suisse. Et puis, c'est une course de 500 km. Donc, moi, je savais que je pouvais rouler 200. Ça, j'ai déjà fait. Là, c'était 500 km, donc 2 fois 250, avec quand même pas mal de dénivelé. Et ça s'est très bien passé. Mais tu vois, ça pour moi, c'était la première étape. Deuxième étape, c'était faire Bright Midnight, qui est le double de la distance, mais quand même encore assez simple au niveau du terrain et du parcours. Et puis après, on verra. Mais il me faut un peu une progression par étape.
C'est pareil pour toi, Julie, ou t'es un petit peu plus tête brûlée?
Alors moi, je suis... Merci Laurie. Moi, je me lance sans réfléchir. J'ai pas besoin d'être rassurée. Je me dis, allez go, on verra ce qui se passe. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis, je suis confiante que peu importe, je vais m'en sortir. Finir, peut-être pas, mais m'en sortir toujours. Donc voilà.
Ça, c'est l'état d'esprit qu'on aime. Ça, c'est Julie Harster. Voilà. Ça, c'est la flamme ardente du Canada.
Il faut jamais me demander comment préparer un ultra.
Promis, voilà. Moi, je suis quand même fun, hein, même si je prépare des trucs,
oui.
C'est pas nul, la préparation.
Moi, je suis tellement fière de Laurie, parce que justement, elle, moi, c'est pas que je suis hors de ma zone de confort, c'est juste que je suis débile tout le temps dans la vie tous les jours. Mais Laurie, elle se met des défis, puis ça la sort de sa zone de confort. Et puis, mais pour le faire, elle se prépare. Et ensuite, elle y va. Et je pense que c'était la seule qui a fini avec un méga sourire. Elle était fraîche, elle était bien, elle était contente. Je pense que tout le monde a pris 3 fois plus de temps de récupérer de la course qu'elle. Voilà.
C'est vrai, Laurie?
Ouais, c'est juste, ouais. Je pense que la journée où j'ai roulé le plus fort, c'est la dernière. Et puis j'avais la pêche et je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'avais la musique dans les oreilles, je pense que j'avais Dépêche Mode dans les oreilles et c'était incroyable et j'étais trop contente de finir.
Oh, c'est comme si elle était faire sa sortie de 100 km à la voir à l'arrivée.
Jour 1, jour 5, même niveau d'énergie. Mais c'est ce qui arrive quand tu dors. Moi j'ai dormi. Moi, je sais très bien que si je dors pas, les choses se passent pas bien. Donc, je voulais pas pousser cette variable sur cet ultra.
T'es très très logique. J'ai l'impression que t'es très. Enfin, c'est pas une impression. Hein, on en parle depuis tout à l'heure, mais t'es très logique, méticuleuse et t'as bien décortiqué les différents paramètres de l'ultra et tu avances précautionneusement. J'essaierai de dire ce mot-là un autre jour, avec précaution.
Ouais.
Chaque petit curseur, comme si tu étais face à une table de mixage avec de la musique, et tu montes progressivement chaque instrument, et tu y vas tranquillement à ton rythme, sans en faisant fi de l'ambiance de la course, de la pression éventuelle, du candidaton, de tout ça. Ça, c'est chouette.
Mais je trouve que c'est pas facile de s'extirper de cette pression, justement, parce que tout ce dont on entend parler des ultras, c'est les gagnants. Et puis les gagnants, ils ont une stratégie, ils sont méga entraînés, ils ont de l'expérience, et c'est très bien. C'est hyper cool d'entendre parler de leur stratégie, et c'est cool de pouvoir apprendre d'eux. Mais après, je trouve que la pression de faire pareil, elle est quand même assez grande. Et puis, je sais pas, dans mon entourage aussi, bon, on est quand même dans une bulle où à Lausanne Gravel, tout le monde roule hyper fort. Mais tout le monde, dès le début, s'est dit « Ah ouais, non, mais moi, la première nuit, je dors pas. Hein. » Alors que t'as des gens qui ont jamais fait d'ultra, puis déjà ils se lancent en mode stratégie de gagnant. Et je pense que j'étais la seule justement dans notre groupe un peu restreint qui a un peu mis le frein et qui a dit ok, je pense que je vais le prendre un peu plus cool parce que je connais pas ça, et donc j'ai été un peu plus prudente. Mais voilà, donc moi je trouvais que la pression elle est quand même là, mais à la fin je suis contente de pas du tout l'avoir écouté et d'avoir fait mes trucs vraiment à ma tête avec ma stratégie. Et puis bah finalement ça a quand même été gagnant parce que j'ai pas fini en queue de peloton non plus, et puis le dernier jour j'ai roulé méga fort et puis j'en ai bouffé des cyclistes qui étaient fatigués le dernier jour.
Je crois bien, ouais. Un petit peu après l'hôtel, l'Américain qui habite à Bergen, que tu as doublé un petit peu avant moi, qui était raide fracassé avec le cul en vrac, lui, il n'en pouvait plus. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, il avait un Niner en titane.
Oui, ouais, mais je l'ai croisé plusieurs fois. Et puis, en fait, il était découragé parce qu'à chaque montée, je le passais. Je pense que je l'ai passé sur 3-4 montées. Et à la fin, j'étais genre, mais je suis désolée, hein, je suis vraiment pas exprès. Mais c'est qu'après, il me rattrapait dans les plats, puis il dormait moins que moi. Donc le matin, il partait avant, mais je finissais toujours par le redépasser.
Ouais. On en revient vraiment à cette stratégie et à la pression sociale et à la pression des réseaux. Et comme tu l'as très bien dit, la stratégie de ceux qui sont devant. Et on a pu entendre dans le débrief avec les mecs que même les champions ont leurs problèmes et que tout ne se passe pas comme prévu. Et que ils ont leurs petits soucis eux aussi, notamment parfois des pannes d'oreiller ou des burn-out un petit peu précoces. Donc ça c'est vraiment cool. Et que ouais, c'est difficile de résister à cette pression.
Oui, je pense. Après, bah moi j'ai, comme dit, j'ai fait nuit blanche le premier soir, mais j'étais aussi un peu en mode, je m'attendais à que mon genou lâche beaucoup beaucoup plus tôt dans la course, mais vraiment beaucoup plus tôt. Moi je me suis dit après 200 ou 300 km, pas 850, et donc j'étais juste curieuse. Moi la course, j'étais pas là pour la gagne, j'étais pas là pour faire un podium, j'étais juste là pour la découverte de la Norvège et le pur plaisir de rouler et puis de faire une course. Et bah je me suis dit je me lance et puis on verra ce qui se passe. Et voilà, ensuite j'ai bien senti justement le lendemain le manque de sommeil, ben j'avançais plus du tout. Peut-être c'est aussi parce que j'avais pas l'entraînement et j'avais plus les jambes ou quoi que ce soit, mais la tête, j'ai vraiment dû me battre pour avancer. Puis je crois que c'était clairement le manque de sommeil. Après c'est une expérience qui était incroyable. Rouler à 4 heures sur un plateau entouré de lacs avec la musique à fond dans les écouteurs, j'étais seule au monde, je planais. Alors peut-être que j'étais un peu high aussi avec le manque de sommeil, mais c'était vraiment absolument incroyable. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cette course, c'est d'avoir fait cette nuit blanche. Mais j'ai vraiment, vraiment senti le lendemain que j'arrivais plus du tout à être performant, surtout dans le vent de face.
Bah oui, parce qu'en plus le vent de face est arrivé au jour 2 et en grande quantité, donc ça soufflait quand même un petit peu fort. Comment tu as fait après, Julie? Cette journée 2 a été un petit peu laborieuse, tu as dormi le soir?
Ouais, donc vers 6h du matin, c'était juste avant que on avait le plateau, une longue descente, un peu ce faux plat descendant et ensuite les petites montées qui recommençaient. Et donc je me suis dit, bon, je vais quand même profiter vers faire une sieste, une micro-sieste 20 minutes, alors que je suis pas détrempée en transpi, parce que dès que je monte, je transpire. Donc je me suis dit, ben là, je suis pas mouillée, donc je vais profiter, je vais faire une petite sieste, parce que je pensais pas rouler jusqu'à 6 heures du matin sans dormir. Vraiment, c'était pas le but.
Mais t'imagines ma surprise. Parce qu'on a roulé ensemble le premier jour, et puis moi je me suis arrêtée vers le kilomètre 220, dans un des refuges, là où j'avais prévu dormir. Et puis, j'ai dit au revoir à Julie. Et le lendemain, quand je me réveille, Julie, elle est genre 150 km plus loin déjà. Je me suis dit, oula, ok, j'ai des kilomètres à rattraper. On y va.
Donc, j'ai fait cette micro-sieste. Et puis, ensuite, j'ai roulé. Mais comme dit, j'étais pas très bien, j'étais pas en méga forme, il a fait méga chaud. Et ensuite, toute la descente vers le ferry, ce faux plat descendant qui montait, je sais pas, j'avais plus rien, j'avais plus de jus. Et puis après le ferry pour aller à Garingé, justement, il commençait à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. J'avais froid, j'avais faim, j'avais un méga manque de sommeil et tout. Et puis, ce soir-là, j'ai eu de la chance de trouver une petite maison avec quelques autres cyclistes parce qu'on était une vingtaine, 25 à se tourner autour. Vraiment, c'était des zombies. Vraiment apocalyptique. T'as 25 cyclistes en habits de pluie. Tout le monde se regarde. Vous faites quoi? Vous restez, vous avancez, vous avez un endroit à dormir parce que c'était juste avant le te claquer 1500 de dénivelé. Et donc, il était déjà, je crois, 20h ou 20, ou 19h. Et puis, j'ai réussi à. Au début, je me suis dit, bon, je dors dans les toilettes publiques, parce qu'il faut payer. Elles sont chaudes, elles sont propres. Je suis parfait, je dors là. Puis finalement, en achetant mes snacks pour le lendemain, j'ai croisé deux gars qui ont réussi à se dégoter une petite maisonnette. Puis, on me proposait de dormir là. Mais vraiment, j'ai fermé les yeux, j'ai réouvert les yeux et j'ai aucun souvenir de rien. J'étais morte, absolument morte. Mais ensuite, le lendemain, je suis repartie tip-top.
Cette femme est folle, littéralement folle.
Ouais, je crois que j'ai dormi 4 heures, je crois, ce soir-là, 4 heures à peu près. Mais vraiment, j'ai fermé les
Wow!
yeux.
Hey.
Mais parce que
Quand
j'ai
Christophe,
utilisé
quand que... Quand
l'application.
Christophe va entendre ça et qu'il va se souvenir que lui, il a sombré pendant 6 heures.
Mais parce que j'avais l'application météo norvégienne qui est foireuse et il y avait une fenêtre météo qui avait l'air plus clémente vers, je sais pas, 4h, 5h du matin. Et puis finalement, on est parti sous la flotte avec Michal.
Ouais. Putain de météo. Bon, maintenant vous allez faire quoi? Parce que c'est bien beau, on a bien rigolé en Norvégie. L'été est sympa et tout. Maintenant, c'est quoi le programme?
Pour l'été ou en ultra ou
Alpinisme.
Bah, ouais, on va faire de l'alpi.
c'est-à-dire.
On fait
On va.
de
l'alpi. Moi, je m'étais dit, bon, j'avais un peu les deux objectifs de l'été, c'était Dell'Ens Dolci et puis Brand Midnight. Et j'en ai pas mis d'autres à mon calendrier parce que c'est assez. Et donc, j'ai beaucoup roulé en prévision de ces deux-là. Et je me suis dit, après, je vais quand même faire un peu autre chose. Parce que oui, on est des cyclistes qui font autre chose. Ça existe. Donc, on aime bien faire de l'escalade. On aime bien aller se balader en montagne, faire un peu d'alpinisme. On a fait une formation au printemps. Et puis, on aimerait bien progresser là-dedans un peu. Donc, c'est peut-être pas la réponse que tu veux entendre, mais c'est la réponse qui est vraie.
Alors, vous me connaissez bien mal. Si vous écoutiez un petit peu plus souvent, si vous aviez écouté un petit peu plus quand même, vous sauriez que je n'attends aucune réponse et que ce que vous me fournissez me convient amplement et ça permet de faire la transition avec un épisode à venir bientôt avec Xavier Cayolle, guide de haute montagne à Chamonix.
Oh, excellent! On a
On
hâte
peut
d'écouter
avoir ton
ça.
contact.
Et oui, mesdames, que j'ai rencontré il y a 2 ans sur un 300 km en France. On a fait un bon bout de route ensemble et je viens de découvrir, enfin, ça faisait un moment que je le savais, qu'il est élève guide de haute montagne et il fait un doctorat, il finit son doctorat sur un truc en lien avec la montagne auquel je n'ai absolument rien compris. Et il m'explique tout ça demain. Voilà.
Excellent.
Donc,
Cool.
ouais.
Et
Et il est à Cham.
pourquoi t'as invité un guide de haute montagne à faire un podcast? C'est sur quel sujet? Si tu peux nous en parler, hein, si c'est pas un secret.
Alors, j'en sais rien encore, mais en fait, déjà récemment, il est allé faire un sommet, je ne sais plus où, en Ardèche, je crois. Alors, c'est peut-être pas un sommet en Ardèche.
Moi, je me dis,
Je
attends,
sais
c'est
plus.
pas très haut l'Ardèche quand même.
Non, alors, ça devait pas être en Ardèche. Ça devait pas être en Ardèche, c'était peut-être en Isère, mais en tout cas, où qu'il soit allé, il y est allé à vélo avec son pote. Donc ça, déjà, tu vois, sur le côté transport à vélo pour aller se taper une grosse montée à la main, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais. Et en plus, en suivant ces publications depuis bientôt 2 ans, même non, un petit peu plus de 2 ans maintenant, je sais que le garçon est hyper intéressant, hyper sympa, qu'il s'exprime hyper bien. Donc, et puis comme tu l'as dit très justement à l'instant, Laurie, on fait du vélo, on adore ça, mais ça n'empêche pas de temps en temps de parler d'autre chose et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à côté, de faire un pas de côté pour voir ce que font les autres. Et va savoir, peut-être que des fois, on peut en récupérer quelque chose d'intéressant pour nous-mêmes.
Ouais, bah, cool. Avec Laurie, on s'est déjà lancé dans le vélo alpi. Donc, les marches d'approche à vélo, la sortie, l'arrêt, et puis revenir à vélo. Puis, franchement, c'est cool.
Bah parce que
vous m'en parlez que maintenant, bande de gourdasses. C'est pas possible.
Je pensais la première sortie qu'on se décide de faire en autonomie, on se dit, ah ouais, c'est un peu long cette marche d'approche. Attends, est-ce qu'on peut quand même faire un bout en vélo? Ouais, on fait un bout en vélo. Ouais, on y va en gravel. Allez. Et puis comme ça, on s'évite de faire 600 mètres de déplus à pied, quoi, sur une route.
À la descente après.
Et puis à la descente, au lieu de... Bah, les transports en commun en Suisse sont géniaux, mais quand même, nous, on arrive un peu au bout parce que on va dans les fins fonds de Valais en Valais, et puis le bus, il passe 2 fois par jour, parfois. Et donc, t'es un peu pris de court quand tu finis ton arrêt, et puis tu redescends, et le bus, il est pas là. Et ben, le vélo, ça, c'est une très bonne solution à ce problème. Il faut un peu plus pousser, mais, mais c'est hyper cool de faire un peu ces sorties où tu mixes plein de sports et tu trimbales un peu trop de matos, mais ça le fait.
Il faudrait que vous vous mettiez au cerceau également. Alors, je ne plaisante pas. Vous irez voir sur Netflix, vous irez voir un documentaire qui s'appelle The Alpinist, qui raconte la vie d'un jeune, d'ailleurs d'un jeune alpiniste québécois, canadien.
Déjà vu.
On l'a vu.
Pierre, voilà. Et vous avez noté qu'au début du documentaire, on le voit faire du cerceau, et c'est un truc de dingue.
C'est vrai. Je ne savais pas c'est vrai.
Qu'on pouvait faire du cerceau comme ça.
C'est
un truc de dingue.
Marc-André Leclerc. Ouais.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Non, très bon film.
J'ai regardé il y a 2 semaines. Ouais. Pas mal. Ça met un petit peu de temps à démarrer. On comprend un petit peu tard qu'en fait, il n'a pas survécu à ses différentes aventures. J'ai trouvé ça met un petit peu de temps à se décanter parce que ça reste un petit peu trop longtemps sur le côté. C'est un personnage excentrique. On n'arrive pas à le saisir. Il ne veut pas parler devant la caméra. Et au bout d'une demi-heure, on commence à entendre il était comme ci, il était comme ça. Et là, on se dit ah ouais, je pense qu'il n'a pas survécu. Chef, je ne suis pas sûr qu'il ait survécu. Je suis désolé.
Mais c'est vrai que moi, je savais déjà en regardant le film qu'il était décédé. Donc,
bah évidemment.
Voilà. Ouais. Faut lire le synopsis, Richard.
Des gens intéressants au Canada, il y en a pas tant que ça.
Ah, c'est pas vrai ça.
Quoi? Pardon, il faut aller où, Julie?
Il faut aller au briefing.
Oh non, franchement, je maintiens ma version que le briefing ça sert à rien. Franchement.
Mais c'était un show de stand-up de toute façon, donc au moins c'était divertissant.
Ouais, mais ça va, je passe mon tour. Bon, alors j'ai bien compris que sur l'ultra, pour cette année, vous allez ramener tous les curseurs à zéro et que vous allez vous divertir autrement et maintenir la condition physique.
Mais il y a aussi du backpacking prévu, tous les week-ends.
Du backpacking.
Ouais. Alors, si vous m'en parliez un petit peu, ça m'intéresse, ça aussi.
Ah, avec Michel, on a prévu d'aller faire une semaine dans les Hautes-Alpes. J'ai piqué la trace d'un gars qui a fait une vidéo qui était... Le gars, il fait VTT, parapente et rando. Mais j'ai juste piqué la trace VTT gravel. Et puis, je vais regarder ça un peu de plus près et découvrir une nouvelle région. Moi, c'est surtout ça ma motivation pour faire du vélo. Moi, je suis une exploratrice. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça.
Et puis, voilà, bah, moi, comme...
Laurie va commencer à explorer la trace.
Et moi, moi, je vais regarder la météo. Je vais prendre un train et puis on verra où je pars. Et je vais prendre une direction.
Malgré tout ça, on est hyper potes, hein, même si on est complètement différentes en termes de ben, on est des cyclistes complètement différentes en termes de planification, mais on reste, on fait tout le temps du vélo ensemble, on est partenaires de cordée, on fait du ski ensemble, et puis ça fonctionne. On se complète.
Mais qui a dit que pour être ami, il fallait être rigoureusement pareil?
Non, mais c'est que depuis le début du podcast, on met vraiment l'accent sur le contraste entre nos deux approches. Mais promis, on est amis. Hein.
Ouais. Ça amène à un bon juste milieu.
On pourrait aussi parler de ce qui vous réunit quand même, parce qu'au bout du compte, c'est la bonne humeur, c'est le vélo, c'est Lausanne Gravel. On peut aussi parler de ce qui vous réunit au lieu de ce qui vous oppose. Ah, est-ce que ce qui vous oppose est réellement si important?
Non, c'est pas important. Ah.
Puis aussi qu'en hiver, on est très ski de rando, donc alors que les autres sont quand même très vélo, nous, on aime bien les lattes.
On va shredder de la poudreuse, c'est ça.
Les Canadiennes, alors tu vois, en regardant, moi je pensais, Julie, que tu étais un petit peu la réincarnation réelle de Robin Scherbatsky, et je pensais que les Canadiennes étaient hyper polies, hyper sages, et là je découvre que tu as insulté les gens en camping-car dans les côtes. Je suis un petit peu déçu quand même.
Pardon. C'est peut-être le... Je devrais pas le dire, mais j'ai un petit sang français.
Ah, c'est pour ça que t'es vulgaire et agressive. Parce que t'es un peu française. D'accord, ok. Ah bah voilà, fallait le dire tout de suite. C'est pas grave. Ah bah voilà, je comprends mieux alors. D'accord, très bien. Ok. Bon alors... Puisque je reste un petit peu sur ma fin et que vous avez donné quelques éléments de réponse quand même sur l'année prochaine, j'aimerais bien savoir comment vous allez vous préparer à l'Atlas en février prochain.
On sera en ski, Richard.
On va être en train de faire du ski.
Mais on sait que ça fonctionne. Je vous invite à réécouter l'épisode avec Louisa Werner. Et vous savez qu'elle a fait 4 sorties vélo avant l'Atlas et qu'elle a passé son hiver sur les skis.
C'est juste.
Oui.
Très juste. Par contre, il y a du très bon ski à faire là-bas aussi. Hein, si jamais.
Au Maroc ?
Bah oui.
Ouais.
Oui.
Bah ouais, évidemment. Évidemment, cette année, les mecs, ils avaient de la neige jusqu'au genou. Tu m'étonnes qu'ils le savent.
Non.
Tu m'étonnes qu'ils le savent.
On verra plutôt en fin d'année pour l'année prochaine, je crois. S'il y a d'autres ultras ou si on part plutôt côté aventure.
Ouais, moi, c'est pas du tout mon genre de m'inscrire pour un ultra en début d'année, en janvier, février. Déjà, faire Dellens & Dolci, ça m'a forcé à beaucoup rouler alors qu'il faisait dégueulasse en Suisse, tu vois. Et ça, moi, j'aime pas ça, être forcé à rouler, mais je savais que pour avoir une condition correcte pour fin avril, il fallait quand même que je fasse quelques kilomètres, verticaux comme horizontaux. Mais ce qui est bien en Suisse, c'est qu'on a le tunnel du Simplon et qu'en hiver, tu le traverses et c'est bon, il fait au moins 10 degrés et il fait soleil. Alors qu'il peut faire 3 degrés avec de la pluie à Brigue, tu traverses le tunnel magique et tu peux aller rouler en Italie.
J'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire.
Bon, ceux qui connaissent le tunnel magique du Simplon.
Voilà, les vrais sachent. D'accord, très bien. Bon, j'en déduis que vous n'êtes pas trop home trainer comme Linda, par exemple. Linda, elle se déchire sur le home trainer tous les hivers. Vous ne faites
c'est
pas
non.
trop ça.
Moi, c'est non.
Moi, j'aime c'est bien, aussi ça. Honnêtement. J'ai pas de coach, j'ai pas de plan d'entraînement, c'est juste de temps en temps, j'aime bien faire tourner le lactate dans les jambes, j'aime bien me faire mal, je crois que c'est des restes de l'aviron, donc de temps en temps, une bonne petite session sur le home trainer, mais globalement, en hiver, dehors, ski de fond, ski de rando, tout. Et vélo aussi, un petit peu, franchement, vélo, gravel sur la neige, je trouve ça c'est assez marrant, puis c'est du skill building, de pas se casser la gueule.
C'est vrai.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser cette question. Tout à l'heure, vous m'avez dit toutes les deux, ça fait environ 2 ans qu'on fait du gravel, on vient de la route.
Ouais.
Julie, comment tu es passée de l'aviron au vélo de route et de la route au gravel?
Je me faisais chier dans mon studio en pandémie. Donc,
Merde.
Donc j'ai commencé à rouler pour un peu sortir de chez moi et puis voilà, je roulais de plus en plus et ensuite le gravel est devenu un peu naturellement avec d'abord une découverte du bikepacking et ensuite tu te dis c'est cool, le vélo ça ouvre les portes à plein de trucs et ensuite tu commences à voir un peu des chemins qui partent dans les forêts où il n'y a pas de voiture et tu te dis ah je me demande ce qui est là et puis bah me retrouver quelques fois sans faire exprès avec mes pneus de 23 à l'époque sur des bons bouts de gravier, ça passe, tu t'éclates, tu te dis c'est trop cool. Puis bah c'était aussi un peu de la mode gravel je crois, donc il y a aussi Laurie et puis Michal et plein de gens d'un coup que je connaissais avec qui je roulais pas mal sur route qui sont tous pris des gravels, alors j'ai un peu suivi le trend sans regret.
Sans regret. Et toi Laurie?
Moi ça fait assez longtemps que je fais du vélo, je faisais déjà du vélo au Canada, ça fait environ 7 ou 8 ans que je fais du vélo de route et puis ouais le switch au gravel il s'est fait comme Julie avec le bikepacking où je trouve que c'est un peu forcé de faire du bikepacking sur la route parce que t'es toujours à côté d'un hôtel, d'une auberge et tout ça, alors que quand t'es en gravel ben c'est un peu plus naturel d'aller camper je trouve. Donc pour moi c'était déjà ce raisonnement de si je veux faire du bikepacking forcément c'est off-road, c'est pas sur la route. Et ça, ce déclic s'est fait après un voyage que j'ai fait sur la route. Et je me suis dit, non, non, mais il faut que j'aille hors des routes, puis que j'aille faire des sentiers, et comme ça, t'es beaucoup plus en nature. Et puis, tu redécouvres aussi des régions que tu connais hyper bien en allant découvrir les sentiers plutôt que les routes. Et puis, je pense que je me serais probablement mise au VTT s'il n'y avait pas eu cette mode du gravel, parce que c'est hyper récent qu'il y a des vélos gravel finalement, ça fait seulement quelques années, et je pense que même s'il n'y avait pas eu cette mode, j'aurais quand même eu plutôt l'attrait du bikepacking à la bikepacking.com, genre qui est très gros vélo VTT qui va sur les sentiers quoi. Mais le gravel c'était un peu plus accessible vu que bah, ça ressemble à ton vélo de route, puis c'est un peu plus passe-partout, et puis voilà.
Je suis en train de réaliser un truc, c'est que ça fait 1h50 que l'on parle, qu'on raconte beaucoup de conneries quand même, surtout moi, mais qu'à un moment, à aucun moment, vous m'avez dit bah, on est des filles, c'est intimidant d'aller sur la route, et puis on va rouler avec les mecs, et puis on se moque de nous, et puis on se prend des blagues. On dirait que vous êtes totalement imperméable à ce que l'on peut entendre habituellement sur les filles à vélo. Vous vous en foutez complètement et que.
Hein? Bah, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que. En fait, moi, j'ai commencé le vélo toute seule. Donc, les commentaires, je m'en prenais juste pas parce que j'étais toute seule. Donc, on a fait nos bails toute seule. J'ai peut-être eu un ami avec qui je roule encore aujourd'hui, Matt, on le salue, qui m'a un peu introduit à la pratique du vélo de route en Suisse parce que venant de Montréal, faire des cols, aller dans les montagnes, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais très contente d'avoir quelqu'un qui m'a fait hyper confiance. J'avais jamais fait de col de ma vie. Et le gars, il décide de m'emmener au barrage de Moiry, faire 32 km de montée quasiment direct, je pense sur la troisième sortie qu'on faisait ensemble. Donc j'ai quand même eu quelques personnes avec qui rouler, mais ça a été un cheminement très solitaire. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai un peu de peine à rouler en groupe juste parce que j'ai pas l'habitude.
Bah moi de mon côté, c'est juste un peu essuyer les remarques. Ayant roulé beaucoup seul au début, bah j'ai beaucoup de petits commentaires. Je moulinais pas assez, je roulais pas comme ceci, il fallait que je fasse plus comme cela. Mais de gens que je connaissais pas du tout, qui me passaient dans des montées ou que je dépassais. Et ils trouvaient manière de critiquer un peu mon style. Et puis, je me souviens, je suis allée faire un group ride au tout début. Et je suis arrivée. Et il y a un des gars qui me regarde. Il me fait, t'es la copine à qui, toi? Et je fais, pas toi. Et puis, voilà. Mais à force d'entendre des trucs comme ça, tu t'ignorent et ça passe. Et je trouve que, au moins à Lausanne, le groupe, il est très accueillant. De notre côté, il n'y a personne qui fait des remarques un peu désagréables. Et clairement, il y a plein de filles qui roulent hyper fort par ici. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout un manque de respect.
On est dans un groupe mixte, mais où ça roule fort, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, nous, on est un peu en queue de peloton, mais c'est le party pace.
Ouais.
Et on a plus de plaisir à l'arrière.
Ouais, moi, mes débuts de gravel, j'ai demandé à Roré s'il pouvait m'aider avec la technique. Parce que aussi, en venant du route, je sais pas, t'es bloqué, tu dis ton vélo de route, tu le sors pas de la route. Alors que d'un coup, il y avait des racines, des cailloux, des rivières, des trucs. Et puis, il faut juste réentraîner son cerveau à pas avoir peur de passer. Donc, j'ai fait quelques sorties avec lui, vu que lui, il est tellement fort en VTT aussi. Et puis ça a beaucoup aidé. Et c'est là où je trouve qu'il n'y a pas du tout de remarques désagréables. C'est tout le monde est prêt à donner un coup de main, à donner des tips, à expliquer un peu techniquement, à nous attendre. Et puis voilà.
On est aujourd'hui dans un groupe qui est hyper bienveillant. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Le Zandgraven, ça existe depuis seulement un peu plus qu'un an. C'est la deuxième saison qu'on fait avec le groupe. Mais c'est vrai qu'avant, je me suis clairement pris beaucoup de commentaires en mode « Ah ouais, mais tu roules bien pour une fille !» Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Ou sinon, c'était plutôt de l'inquiétude envers mes pratiques de voyage en solo, par exemple, où on me demandait genre « Ah, mais tu fais ça toute seule ?» Genre, il y a personne qui vient avec toi. Je vais juste partir soit un week-end solo backpacking ou j'ai fait un voyage un peu plus long. C'était plutôt ce genre de commentaires que je me prenais et pas les remarques un peu patriarcales, disons. C'était plus des remarques un peu bienveillantes, quand même. Ils avaient peur pour moi.
Ouais.
Mais faut dire qu'avec Laurie, on s'est auto-initié à pas mal de sports et on a fait nos débuts aussi en ski de rando ensemble. Et tu fais des sorties sur 2-3 jours et t'es le seul groupe féminin, sans guide, sans gars avec toi dans les cabanes. Tu te prends aussi des commentaires.
Alors... C'est vrai, je pense qu'en fait, c'est pire en montagne. Le vélo, ça va. Il y a maintenant, aujourd'hui, énormément de femmes qui pratiquent le vélo. Mais je pense que t'en parleras peut-être à ton invité qui est guide de montagne. Mais je pense qu'il doit pas avoir de collègues femmes, par exemple. Ou il y en a peut-être deux. Il y en a, ouais. Donc, limite, c'est un peu. Le vélo, ça va. C'est pire dans les autres sports qu'on pratique. Où il y a encore beaucoup plus d'a priori et de. Et de commentaires et de problèmes.
De problèmes.
Oui, quand vient le temps d'organiser les sorties, par exemple. Je sais pas trop comment le verbaliser. C'est que c'est une question assez complexe. Mais on te fait jamais confiance et il faut toujours que ce soit toi la plus préparée. Donc je pense que mes méthodes de préparation, ça vient un peu de ça. Il faut prouver que t'es vraiment au taquet. Et que on peut te faire confiance. Parce que tu pars un peu plus bas que les autres parce que t'es une femme. Et il faut que tu prouves que tu connais les manips, tu sais quoi faire.
Et que c'est...
tu sais lire une carte, tu utilises une boussole, genre des trucs bêtes. Mais il faut toujours un peu se prouver. Donc... voilà.
Ça va, Julie?
Mais oui.
T'as quelque chose à ajouter là-dessus?
Non. Laurie, elle a tout dit.
Elle est balèze pour ça. Qu'est-ce qu'elle parle bien, quand même, Laurie?
Je sais.
Avec mon accent coincé entre deux continents, mais c'est bon. Ça paraît pas trop. Je sais pas.
Non, mais je sais ça, tu m'as expliqué déjà ta théorie de j'essaye de gommer mon accent québécois pour essayer de passer une parfaite vaudoise.
Je suis une espionne. Non, c'est pas vrai.
Non, mais je sais, j'ai déjà fait la remarque à Clément, hein, qui a pris une sorte de faux accent suisse pour essayer de masquer le fait qu'il est breton. Alors quand même. Hein.
Mais c'est qu'il est contagieux, ouais. L'accent suisse.
C'est
au début, tu le fais. Au début, tu le fais pour rire, et après, tu parles vaudois. Tout le temps.
tu te fais happer par un vortex en fait.
Exactement.
Il y a que Julie qui a gardé un petit peu son accent. Tu es d'où toi déjà, Julie? J'ai oublié.
Moi, je viens de à une heure de Toronto, dans la partie anglophone en Ontario.
Vers les chutes du Niagara?
Ouais, à une heure aussi des chutes du Niagara. Vraiment la pointe au bout du lac entre Toronto et les chutes du Niagara. Hamilton.
À Hamilton?
Hamilton.
Hamilton,
voilà.
Ontario.
Exactly.
J'ai dormi dans une cabane à Hamilton.
Ah bon? Wow.
Pourquoi?
Oui, madame.
Tu faisais quoi à Hamilton?
Ben, j'étais en vacances et on avait trouvé un Airbnb dans cette petite bourgade sympathique. Et voilà, on avait loué un truc charmant, une cabane sur deux étages à Hamilton. Et voilà, petite bourgade, bien sympa, ouais. Effectivement, très chouette. Hamilton. Mm-hmm. Voilà. Mesdames, est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à tout ce que l'on vient de déblatérer?
As-tu d'autres questions pour nous?
Laurie, t'as checké tes notes?
Attends.
Ah ouais, tiens, Laurie, regarde un petit peu tes notes. Est-ce que t'as fait une petite croix?
Non, mais on a quand même parlé de tout ce que j'ai noté. Voilà.
Est-ce que tu peux nous faire la lecture de tes notes?
Absolument pas. De toute façon, je ne ferai que me répéter.
S'il te plaît, Julie, j'aimerais savoir ce que c'est. Une fois dans ma vie, j'aimerais me glisser dans la peau, dans la tête de quelqu'un organisé.
Non, mais c'est pas ça. Attends, mais...
Oui, et en plus, tu vois, il n'y a pas que moi, il y a Julie aussi qui...
Alors, je montre la caméra, mais c'est juste des mots-clés avec des points et deux, trois trucs pour mieux organiser mes pensées. Mais c'est tout.
Oui, qui prend une page entière.
Ouais, mais ça a pris quoi? C'est 10 minutes à écrire. C'est bon.
Putain. Bien.
Ils vont tous penser
mesdames.
Que tu es folle sur ce podcast.
Mais non. Mais non, tu es comme tu es. Et puis voilà, et c'est très très bien. Chacun est un petit peu taré à sa manière. Tu vois, Julie, elle l'a dit tout à l'heure, elle est complètement débile.
Je pense que de base, si tu fais des ultras, t'es débile.
Oui.
Ça, je sais pas.
Franchement. Demande un peu à ton entourage qui fait pas de vélo. Et moi, ils pensent tous que je suis débile au bureau.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
Ce qui est bien, c'est que dans la vie professionnelle, j'arrive à être très organisée et méticuleuse. Et
c'est
du
vrai.
Coup, je pense que... Je pense que du coup, dans ma vie de tous les jours, j'ai juste la flemme.
Ce qu'on ne dit pas, c'est que Julie, elle gère. Genre, c'est elle qui a tout organisé pour le groupe Lausanne Gravel, pour les transports, où est-ce qu'on reste en arrivant à l'aéroport, les billets d'avion. Donc, elle fait genre, ouais, je suis vraiment désorganisée, je suis à l'arrache. Mais en fait, son job, c'est de gérer.
Je travaille dans l'événementiel, donc oui, je fais la gestion de l'événement. Alors, la gestion de ma propre vie, non, mais pour tout le reste, ça va.
Et en fait, tu t'occupes de la vie des... En fait, tu gères la vie des autres, mais pas la tienne.
Exactement.
En gros, exactement.
Ah ouais, tu l'avais pas vu venir, ça, hein, de relancer l'enregistrement après qu'on est fini. Parce qu'en fait, il y a une tradition, c'est que quand on a terminé l'épisode, généralement, il se passe un truc phénoménal, c'est que c'est là où les gens disent des trucs vraiment intéressants. ils ont un niveau de performance qui est, disons, ici, qui est très bien. Il n'y a rien à dire. C'est intéressant. Je coupe l'enregistrement et là, du coup, ils savent qu'il n'y a plus la pression de la caméra ou du micro et bam, d'un coup, le niveau il monte. Tu sais, ils se libèrent un petit peu comme, Marie-Josée Pérec qui arrive à courir beaucoup plus vite que prévu. Et là, ça y est, quoi. Et là, ça y est, les mots fusent, les expressions pertinentes et là... Donc, ce que j'aime avec vous par-dessus tout, c'est que quand on parle, là on vient de parler un petit peu des filles dans le vélo, et ce que j'aime avec vous quand je vous vois, quand je roule avec vous, c'est que j'ai pas cette impression de « on est des filles, les mecs ils sont méchants avec nous, bouh c'est terrible, c'est trop dur ». Vous avez toutes les deux, Vous avez cette capacité à passer au-dessus de tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est culturel, peut-être, à votre avis. Est-ce que c'est culturel, Julie?
Alors, à mon avis, oui. Ayant grandi au Canada, où le sport, il est valorisé autant féminin que masculin, il n'y a pas de différence. C'est pas les garçons font du sport, puis les filles pas. C'est, tout le monde fait du sport tout le temps. Et puis, bah, du coup, oui, il y a quand même ce côté un peu... Les filles sont moins fortes, mais il n'y a pas ce côté « les filles ne sont pas censées faire du sport » ou qu'elles ne peuvent pas faire des trucs un peu extrêmes. Et donc, je pense que cette mentalité, ben, personnellement, je ne l'ai jamais ressentie à aucun moment que je n'étais pas censée être là en train de faire le sport que j'étais en train de faire.
Bah, moi, limite, je suis surprise d'entendre qu'en 2023, bah, c'est encore surprenant de voir des femmes qui font du vélo. Je sais pas, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les podcasts ou dans d'autres médias. Mais je pense que, comme l'a dit Julie, il y a effectivement une composante culturelle. Je pense que les deux, on a fait du sport très jeune. Moi, j'ai fait une panoplie de sports et on est hyper encouragé à rester sportif. Donc déjà ça c'est important, et je pense aussi qu'il y a énormément de women empowerment au Canada. Je pense, je sais pas comment l'expliquer en français. Bah moi j'ai fait pas mal.
Nous on dit girl power.
Girl power.
C'est nul comme expression.
Girl power. Et ouais, bah voilà, ça aussi, et puis moi, c'est nul parce que girl et women.
C'est vrai. Et puis moi, j'ai eu pas mal d'opportunités plus jeune de faire d'avoir des groupes féminins de sport. Et donc, je ressens pas le besoin d'avoir ça aujourd'hui parce que je l'ai déjà eu dans ma jeunesse.
Le sport, c'est pas intimidant pour nous, en tout cas.
Non, voilà, c'est pas intimidant. On est déjà passé par là. La jeunesse, elle a été remplie de sport tout le temps. Donc, pour nous, c'est pas étonnant qu'on se mette aussi à de nouveaux sports et qu'on se lance toute seule. On a appris comme ça, donc t'as envie de faire un truc, vas-y, t'as pas besoin de personne.
Donc c'est vraiment culturel.
Je pense que c'est culturel, mais c'est aussi de notre personnalité, puis de comment nous on a été élevés, genre pas Canada versus France ou Europe, mais juste mon éducation familiale. Parfait. Je pense que Julie, c'est la même chose, ouais. Bon, nous, on se prend déjà des raclées avec les filles de Lausanne Gravel.
Ah, bon, ça va alors.
Mais c'est pas, aussi, pour nous, c'est pas, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas le but. Moi, je pense que j'ai envie de performer et de progresser dans le vélo, mais pas à tout prix. Et donc, moi, je sais très bien que j'ai un certain plafond et que, voilà, ça s'arrêtera là. Et moi, si j'arrive à faire des sorties qui font 100 km, 3000 mètres de D+, et que je prends méga du plaisir à les faire, ben ça va s'arrêter là. J'ai pas une aspiration démesurée de performance. Aussi parce que j'aime juste faire autre chose, comme on l'a dit plus tôt. À un moment donné, si tu fais plein de sports, t'es un peu médiocre à tous les sports. Mais c'est pas grave, tant que t'as du plaisir.
Je pense que ça pourrait être La conclusion idéale, c'est de garder le plaisir là où il est et de ne pas se prendre trop au jeu du toujours plus.
Tout à fait.
Et d'expérimenter et de toujours apprendre, d'aller apprendre de nouveaux sports.
Moi, c'est ça qui me motive, essentiellement. C'est toujours de progresser, pas en termes de performance, mais d'apprendre toujours des nouvelles choses ou de découvrir des nouvelles régions.
Mais comme dit, on a progressé bien techniquement et je pense qu'on va continuer à rouler et ça va continuer à progresser au moins techniquement. Et même si c'est pas en force, en puissance, en vitesse, bah on va quand même réussir à aller un tout petit peu plus vite sur les descentes.
Exact. Bien dit.
Mesdames, pour la deuxième fois, je vais le dire, parce que bon, vous avez quand même sérieusement loupé votre minute de solitude tout à l'heure et oui, effectivement. Mesdames, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. C'est encore plus un plaisir de vous voir en vrai, mais déjà au moins à distance, c'est un régal. Et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve un de ces quatre à vélo. Ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille visiter une de mes copines d'enfance à Lausanne. Donc, je n'hésiterai pas à venir vous voir par la même occasion.
Ah bah, je te prépare un petit tracé. Ouais, si tu viens.
Un petit tracé
Un petit tracé.
Un petit hike a bike.
Ouais, faut que tu prépares tes jambes de randonneur.
Ouais.
Ah, mais ouais, allez-y, franchement.
C'était pas une sortie.
Ouais, c'est pas un souci. J'adore quand ça grimpe et quand il y a du single et quand il y a de la boue. Si on revient propre, c'est que ça servait à rien. Donc,
parfait.
Allez-y.
C'est noté.
Allez-y, quoi. Pas de problème. Mesdames, à très bientôt.